Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et leur closé.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC. À 14h50, on va partir à Jakarta, en Indonésie, à la rencontre d'Eric. Il est consultant dans l'aéronautique, il vit là-bas depuis 5 ans, il va nous raconter son quotidien. Mais avant, on va parler des paris sportifs, tout pour la daronne, bête de plaisir, bête de paris. Voilà quelques-uns des slogans des sites de paris. Vous ne comprenez rien, c'est peut-être normal, la cible c'est plutôt les jeunes. Les paris sportifs ont explosé, plus 79% en un an. Alors est-ce que vous aussi, vous pariez pour mettre la daronne à l'abri, par exemple, comme le dit la pub, ou juste pour vous divertir, parier de l'argent, est-ce que ça rend les matchs plus excitants? C'est notre question. Pour Emmanuel Le Chypre, c'est non.
Ah oui, parce que déjà, les matchs, ils sont, moi, je les trouve suffisamment excitants comme ça, rien que l'enjeu sportif. Si en plus, tu doubles ça d'un enjeu financier où tu as un télescopage entre
tes
envies de supporter et tes souhaits de pronostiqueur, ça devient compliqué. Après, moi, je trouve que le danger avec le pari sportif, c'est aussi que, bah, alors après, peut-être pas à l'échelle de matchs comme l'Euro, etc., mais dans plein de sports où finalement ça peut être moins contrôlé, il y a tout un tas de risques de trucage.
Ah, de bidouillage.
Ah oui, de bidouillage. Donc c'est quand même assez préoccupant. Moi, je trouve que la façon dont progressent les paris sportifs est quand même extrêmement spectaculaire, au point d'être préoccupante. Hein. Quand on regarde les jeux, les pratiques des Français ces dernières années, on se rend compte qu'ils sont globalement moins nombreux à pratiquer les jeux d'argent et de hasard, sauf les paris sportifs qui explosent. Et là, il y a quand même des risques d'addiction. Surtout que, en plus, alors, c'est soi-disant réservé aux majeurs, mais en réalité, c'est quand même tout ça assez mal contrôlé et que même les moins de 18 ans peuvent y jouer. Donc, moi, non, je suis pas,
pas
adepte. Je suis pas client.
Ouais, moi, j'ai pas ce risque-là. J'adore jouer et je ne succombe pas. J'en fais pas pour autant une addiction. Mais très honnêtement, j'ai découvert les paris il y a quelques années déjà. Ça donne de l'excitation en plus. Alors, évidemment, il y a la perspective de gagner des sous. Mais au-delà de ça, ça peut te paraître extrêmement bizarre, mais c'est très bon pour l'estime de soi. Quand tu regardes le sport, moi, je parie que sur le foot parce que l'oreille, j'y connais rien. Donc, mais quand tu paries sur le foot et que tes pronostics sont validés, bah, c'est pas simplement le gain d'argent, c'est aussi un petit plaisir personnel.
Les courses de chevaux, c'est pareil. Hein. T'as le plaisir d'avoir trouvé le gagnant.
Exactement, sauf que les chevaux, j'y connais rien. Mais vraiment rien.
Et ça le foot.
Foot, quand tu lis l'équipe depuis l'âge de 12 ans, évidemment.
Ça
crée une petite connaissance, tu vois. Comme tu dis, c'est la culture générale.
Oui.
Dans le foot, c'est pareil. Bon, donc voilà, donc il y a de l'estime de soi. Et puis souvent, quand tu paries, tu peux comparer tes paris avec ceux de tes copains. Donc ça crée de la convivialité, donc une excitation supplémentaire, tu pimentes tout ça, etc. Alors oui, t'as raison, il y a un risque d'addiction, mais moi j'ai aucun risque de ce côté-là, je dois dire. Mais en revanche, il y a une chose qui m'inquiète, et je rejoins un peu ce que tu disais, c'est sur les jeunes. Parce qu'au fond, les pubs s'adressent aux jeunes, on a déjà parlé.
C'est la cible, ouais.
Ah bah oui, les pubs s'adressent aux jeunes, et tout le monde sait que les jeunes, même mineurs, font des paris en ligne. Voilà. Et ça me gêne. Mais pour moi, à titre personnel, si tu me demandes si oui je parie, oui ça m'arrive, ouais, j'adore ça.
Tout pour la daronne.
Ça veut dire quoi d'ailleurs?
Ça veut dire mettre ta mère à l'abri. Tu paries pour gagner de l'argent, pour mettre ta mère à l'abri, c'est ça que ça veut dire.
Ah, et tu donnes tes gains à ta mère.
Et tu donnes tes gains à ta mère, parce qu'à mon avis, c'est assez peu le cas. À mon avis, on donne pas ses gains à sa mère.
Les jeunes, quand tu interroges les jeunes qui jouent, etc., y a pas de doute. Leur rêve, c'est de faire
fortune.
Mise, ouais. Et c'est de voir.
C'est là où c'est dangereux, quand même.
C'est de prendre modèle sur des gens dont ils ont l'impression que si ils ont des belles maisons, s'ils roulent dans des belles voitures de sport, c'est parce qu'ils sont devenus les rois du jeu en ligne, bien sûr.
Le parieur moyen, c'est un homme de 30 ans. Donc, c'est quand même assez jeune. Lisa Marie,
tu veux dire que je ne suis pas dans la cible?
Non, je ne veux pas dire ça.
Non, mais j'ai senti qu'il y avait un truc
même
désagréable
pas,
dans ta remarque.
Tu t'auto-vannes. Lisa Marie, tu joues toi ou pas?
Non, pas trop. Non, j'aime pas trop parier. Non, je ne suis pas trop fan. Toi, tu paries, Laure?
Non, moi je. Alors moi je regarde déjà pas le sport, donc si je pariais sur le
c'est
sport.
Quelque chose que tu regardes
mais
pas.
Par contre, clairement, je vois qu'autour de moi, tout le monde parie en ligne en même temps que les matchs. C'est devenu.
Ouais, c'est vrai. C'est devenu mais il y a tellement de pubs en fait autour de ces paris que ça donne envie. Enfin, je peux comprendre qu'après on soit tenté de jouer, de parier.
Non, mais moi je joue à plein de jeux, par exemple, et j'adore intéresser la partie, comme on dit. Bah oui, tu l'intéresses, ça donne une excitation supplémentaire. Tu joues aux cartes.
Avec des allumettes, c'est pareil.
Tu joues au backgammon, mais tu dis n'importe quoi.
Mais non, c'est pas le même jeu.
Pas du tout.
La même chose.
Mais pas du tout.
Mais si, t'as la satisfaction de gagner.
Non, mais non, c'est pas pareil.
Mais c'est pareil, t'as plus d'allumettes que l'autre. Non, voilà, c'est
non,
tout.
Non, ça c'est une remarque d'un type.
Mais toi,
qui
tu
joue
dis
pas.
Que t'as pas d'addiction, mais pour raconter les histoires que tu nous racontes, oui. Tu nous as raconté récemment que tu voulais jouer au poker. Oui, que tu voulais jouer au poker alors que tu dînais avec des amis.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est un peu, t'as le jeu quand même dans le sang, quoi.
C'était pas au poker, en l'occurrence, c'était au backgammon. Mais parce que l'autre soir, j'étais dans un restaurant et j'étais en train de dîner avec des amis et derrière moi, dans un restaurant libanais, pour tout te dire, et derrière moi, il y avait des gens qui jouaient au backgammon. J'adore ce jeu. Et ça, j'avais envie d'aller jouer avec eux. Ouais.
Et de jouer de l'argent. Bien sûr.
Et de planter ta conversation.
Oui, c'est un peu maladif quand même.
Type de billard, tu vois, pour rien, comme ça, juste pour le fun.
Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, on vous pose la question, parier de l'argent, est-ce que ça rend les matchs plus excitants? Vous pouvez nous envoyer des messages et témoigner sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
Et avant d'aller au 32-16, on est avec Olivier Duris, qui est docteur en psychologie, psychologue clinicien à l'hôpital de jour André Bouloche à Paris. Bonjour Olivier Duris.
Bonjour.
On voit les chiffres des paris sportifs exploser au premier trimestre 2021. Est-ce que vous voyez, vous aussi, de plus en plus de gens être complètement accros aux paris?
Alors, on voit pas pour l'instant de plus en plus. Enfin, ça dépend en fait des services. Il y a des services qui vont dire qu'ils envoient une augmentation. On peut aussi se rendre compte des fois qu'il y a des jeunes, des très jeunes, qui commencent aussi à avoir des problématiques liées à ça. Après, je pense aussi qu'il y a la question de l'euro en ce moment qui fait augmenter le coût des paris. Surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde la publicité, c'est vraiment beaucoup tourné envers le foot, envers les jeunes et tout ça. Quoi. Donc, ça peut aussi poser question.
À quel moment il faut s'inquiéter, voir qu'on est passé du jeu à l'addiction?
Alors il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Déjà, il faut se poser la question est-ce que par exemple les gens qui vont par exemple jouer aux jeux vidéo vont avoir une sorte de perte de leur contrôle de l'impulsion? Ça veut dire le moment où on n'arrive même plus à se dire bon bah cette fois-là je vais pas jouer. Le fait aussi d'avoir un espèce de jeu compulsif, donc le fait de par exemple ne pas pouvoir, enfin de se sentir très mal par exemple si on ne joue pas, et la poursuite aussi de ces événements-là, donc le fait de continuer à jouer malgré les incidences négatives que ça peut avoir sur notre vie. Ce qui veut dire que, bien évidemment, il y a aussi quelque chose de très social, il y a un clivage socio-économique, ce qui fait que certains qui ont beaucoup d'argent vont être moins impactés par le fait de jouer que ceux qui ont des difficultés sociales déjà. Mais on le voit, certains dépensent énormément, et du coup, ce qui va avoir un impact sur leur vie de jour.
Mais moi, j'ai remarqué qu'autour de moi, les gens qui jouent beaucoup, enfin qui parient beaucoup, étaient déjà des gens qui jouaient beaucoup à des jeux d'argent par ailleurs, qui jouaient au poker, qui fréquentaient les casinos, etc. Donc il y a quand même une population plus âgée qui est habituée de jeux d'argent et qu'on retrouve dans ces paris en ligne, non?
Bah, de toute façon, en fait, il faut savoir que nous, quand on parle de la question de l'addiction aux jeux d'argent, ça prend en compte tout ce qui est jeux d'argent. Donc aussi bien les jeux à gratter que les paris en ligne, que le poker et tout ça. Donc en fait, finalement, les choses qu'on va se poser sur le pari en ligne, c'est aussi des choses qu'on va se poser sur tout ce qui appartient à la Française des Jeux, par exemple.
Ah oui.
Et ce public quand même qui n'est pas celui que tu décris, Laurent, qui n'est pas habitué à jouer à des jeux, qui parfois trouve à travers le pari, à travers le fait de gagner, de la confiance en soi, tu disais j'ai été bon. Est-ce que c'est pas quand on commence à gagner justement que ça devient dangereux?
Bah, en fait, finalement, le truc qui va poser problème, c'est qu'on se rend jamais compte de ça. Mais de toute façon, qu'importe le jeu d'argent auquel on joue, finalement, on sait bien que si ça existe et si ça rapporte autant de sous, c'est bien parce que l'objectif, c'est pas de nous faire gagner des sous. En soi, c'est de nous en faire perdre. Alors, il y a des chances, bien sûr, de pouvoir gagner un petit peu. Et donc, après, on peut être pris dans une certaine frénésie ou autre. Mais des fois, même quand on perd, finalement, on va avoir réenvie d'y retourner, de racheter et tout ça. C'est un peu le principe de la personne qui va, toutes les semaines, dépenser plein d'argent dans des tickets à gratter, par exemple.
Mais Olivier Duris, est-ce que l'addiction est liée à la nécessité ou pas de gagner de l'argent pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que le fait que vous jouiez de l'argent dont vous n'avez pas vraiment besoin, que vous considérez comme un petit budget, voilà, bon, vous perdez. Ou alors, est-ce que le fait au contraire de se dire j'ai absolument besoin de gagner pour parce que ça doit me payer, je sais pas, mes vacances, voire mon loyer, etc. Est-ce que ça renforce l'addiction ou il y a pas de lien?
Je pense que tout le monde va avoir ses raisons en fait. On n'a pas tous les mêmes raisons de rentrer en fait dans ce type de rapport au jeu d'argent. Après, ce qui va être problématique, c'est quand on nous sort des phrases comme par exemple tous les gagnants ont au moins joué une fois dans leur vie ou des choses comme ça.
Ah oui. Aussi le nombre 100% de perdants, des gagnants ont tenté leur chance.
Voilà, exactement. Mais sauf que 100% des perdants aussi, il y en a beaucoup plus.
Ouais, mais la question que tu poses, en l'occurrence, Emmanuel, elle a été documentée. On sait que, par exemple, dans les périodes de crise, le chiffre d'affaires de la Française des Jeux, pour prendre cet exemple-là, augmente. Dans les pays pauvres, les loteries, les jeux organisés par l'État connaissent un succès absolument incroyable. Là, en France, à propos des paris, on voit bien qu'il y a des événements sportifs qui accélèrent l'accès aux paris. Et puis, quand il y a un événement sportif, il y a beaucoup de publicité, beaucoup d'incitations. Ça va redescendre, hein, sans doute. Après l'euro, ça va redescendre. Moi, ce qui m'épate, parce que moi, quand je parie, je ne parie que sur le foot. Mais ce qui m'épate, c'est que les gens parient sur tout et n'importe quoi. Les gens parient, bien sûr, sur d'autres sports, mais ils parient parfois sur des compétitions qui ont lieu à l'étranger.
Bah ouais, la NBA qui était la compétition la plus pariée au premier trimestre 2020.
Et voilà, sur des compétitions, sur des matchs de boxe. Mais pour parier, c'est comme pour les courses, il faut quand même s'y connaître un tout petit peu. Ou alors, on joue au petit bonheur la chance, si j'ose dire. Mais quand tu paries sur le sport, il faut quand même avoir un tout petit peu d'expertise.
Ça, c'est pas nouveau, parce que je veux dire, en France, c'est une tradition qu'on n'a pas, mais les bookmakers, tu paries sur tout et n'importe quoi. Tu vas chez un bookmaker en Angleterre, tu lances le pari. Tu dis, tiens, je vais faire n'importe quoi, la politique, le temps qu'il va faire.
Le sexe de l'enfant du prince Harry, bien sûr.
Le résultat de Neumann Le Chypre, reste avec nous, Olivier Duris. On était avec Fred qui nous appelle de Créteil. Bonjour Fred.
Bonjour.
Toi, tu as déjà perdu pas mal d'argent au pari. Tu t'es arrêté?
Oui, en fait, il y a quelques années, j'avais un ami qui m'en avait parlé. Et il y avait soi-disant des techniques pour être sûr de gagner à tous les coups.
Ça, c'est redoutable, ça.
Ouais,
les martingales.
Voilà. Et au final, j'ai commencé à jouer. Je me suis pris de passion un peu pour le truc. Mais j'ai plus perdu que gagné, évidemment. Donc on se rappelle évidemment que quand on gagne, mais quand on fait la balance, on perd beaucoup plus que ce qu'on a gagné.
Est-ce que la pub avait un impact sur toi?
Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de pubs comme aujourd'hui. Ouais. Et moi, en fait, j'appelais surtout pour dénoncer, pour dire que je trouvais ça un peu malsain quand même, le ciblage qui était fait aujourd'hui d'une certaine population, via certains influenceurs, via les pubs, via le vocabulaire employé. Et on vise clairement une population qui est déjà précaire et qui est, on va dire, plus sujette à l'appât du gain, en fait. Mais au final, moi, je pense que comme les pubs pour l'alcool ou la cigarette, c'est interdit, je pense qu'on devrait quand même réglementer un peu ce genre de choses, parce que les gens perdent beaucoup, beaucoup d'argent, en fait.
Alors ça, ce que tu décris, et pardon, je reviens en arrière un tout petit peu, mais c'est un invariant structurel du jeu. Les joueurs ne se souviennent que de leurs coups les plus fabuleux, et donc les coups, ils ont gagné. Et d'ailleurs, oui. Si vous faites bien attention...
Par contre, ton banquier, il se rappelle plutôt du contraire.
Attends, parce que si vous faites bien attention, dans les publicités, on fait du testing et on fait du témoignage. Hein. Et souvent, évidemment, on ne fait témoigner que les gens, par définition, qui gagnent et qui viennent raconter, d'ailleurs, comment ils ont gagné en pariant sur plusieurs matchs, en pariant telle somme d'argent, et souvent avec des coefficients multiplicateurs extrêmement importants. Et donc, évidemment, c'est fait pour donner envie. Malheureusement, il y a peu de gens qui gagnent.
Mais Fred, comment t'as cédé aux sirènes des martingales? C'est-à-dire, c'était crédible?
C'est quoi? Fallait mettre un doigt dans le dos, boire du vinaigre?
Non, en fait, c'était juste observer les statistiques des équipes à domicile, extérieur, se dire que voilà, en général, telle équipe va plus souvent gagner chez elle, l'autre est plus faible, faire les bonnes combinaisons de matchs pour pouvoir avoir de bons leviers. Mais au final, il y a quand même l'incertitude du sport. Et en fait, les matchs qui sont vraiment, vraiment évidents, il n'y a pas beaucoup à gagner dessus.
Évidemment.
Quoi qu'il arrive, on est obligé de prendre certains risques. Et, Et dès que ça devient un peu incertain,
Non, mais si Emmanuel jouait, il ferait appel à l'intelligence artificielle, il regarderait toutes les statistiques, etc.
Mais du coup, il ferait appel à un coq qui va dans un sens ou dans un autre.
Le plus drôle, tu sais qu'il y a des journaux.
Un poulpe.
Tu sais qu'il y a des journaux qui te donnent accès à tous les chiffres qui sortent le plus souvent au loto.
Oui.
Mais comme chaque chiffre a autant de chances que les autres de sortir, ces statistiques n'ont absolument aucune importance. Et malheureusement, en foot, évidemment, PSG a plus de chances de gagner contre Chambly que Chambly. Mais malheureusement, tu peux faire toutes les statistiques que tu veux. La vérité d'un match, elle est toujours différente. Comment tu pouvais parier hier soir que la France allait faire 2-2 contre le Portugal et qu'il y aurait 3 pénaltys dans le match et que Ronaldo mettrait 2 buts
et que Benzema en mettrait 2.
Mais ça sert à quoi de lire l'équipe depuis des années?
Voilà. Merci beaucoup Fred d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. Un grand merci à Olivier Duris qui nous a accompagné, docteur en psychologie, psychologue clinicien à l'hôpital de jour André Bouloche à Paris. On vous attend au 32-16. Est-ce que vous pariez pendant les matchs? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous êtes comme Fred scandalisé par les publicités? On vous attend, appelez-nous, Neumann le Chypre sur RMC, on revient.
RMC midi 15h.
Neumann le Chypre.
RMC midi 15h.
Neumann le Chypre.
Neumann le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h. Succès des sites de paris en ligne. Parier de l'argent. Est-ce que ça rend les matchs plus excitants? C'est notre question jusqu'à 15h. Neumann le Chypre dit non, le sport lui suffit. Parier, c'est mettre le doigt dans un engrenage. Pour Laurent Neumann, oui, c'est une petite pincée de sel supplémentaire. Et on va aller voir Lisa Marie. Lisa Marie, est-ce que tu as une première tendance?
Oui, on est sur une égalité parfaite pour le moment. 50-50 entre ceux qui trouvent que c'est plus excitant de parier pour un match et les autres non. Alors vous êtes très nombreux à témoigner, à nous écrire sur l'application RMC. Pour Mehdi, parier c'est nocif, ça peut ruiner des vies. Il ajoute, l'addiction au jeu est un fléau. Toutes les pubs pour les paris sportifs devraient être interdites au même titre que le sont les pubs pour l'alcool et le tabac. Doc trouve lui que c'est beaucoup plus fun en termes d'adrénaline de regarder un match en ayant parié de l'argent. Et puis Arnaud revient sur le slogan tout pour la daronne. Il explique que ça vient du youtubeur Momo Eni qui parle de foot. Dans plusieurs vidéos, il va au bureau de Paris pour miser des grosses sommes d'argent sur des matchs en disant « on va mettre la daronne, donc sa mère, à l'abri ». D'où le slogan.
Voilà, donc c'est ça. C'est ça.
Ah bah j'avais compris.
Mettre la daronne à l'abri.
Nous non, mais toi oui.
Oui, mais moi je suis extrêmement.
Non mais toi, tu parles le langage jeune.
On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
Et on est avec Tony qui nous appelle depuis Saint-Marcelin en Isère. Bonjour Tony.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Salut Tony.
Toi t'es...
T'as une voix de gagnant Tony.
Moi j'adore les parier les gars. Moi je vous écoute depuis tout à l'heure là. Bah, de toute façon je vous écoute tous les jours, hein. Je suis un grand fan de vous. Donc moi le petit point à préciser, je suis plus côté Laurent Neumann. Parce que effectivement quand on parie sur un match, quand on le regarde, les sensations et le plaisir de regarder ce match n'est plus le même. N'est plus le même qu'en temps normal.
Attends, réponds à une question. Hier, il y avait le match de l'équipe de France. Si tu paries sur le match, à la fois tu es supporter de l'équipe de France et donc tu es tenté de parier pour l'équipe de France. Mais hier, il était peut-être légitime de parier sur le match nul ou même de parier sur une victoire du Portugal. Pourquoi pas? Donc comment tu arbitres entre ton statut de joueur et ton statut de supporter?
Bah, là-dedans, c'est compliqué, dans le sens où c'est que, bon, on regarde, on analyse un peu les matchs, tout ça, on voit un peu comment que ça se passe. Moi, je parie, bien évidemment, mais je suis pas le parieur qui va parier un petit peu pour rien et puis sur chaque match, non, pas du tout. Je parie vraiment sur des matchs, entre guillemets, que je suis sûr, à 90%, on va dire. Hein. Maintenant, hier, le match qu'il y a eu hier, je vous assure que le match nul, je le savais. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment.
T'avais parié?
J'ai parié dessus et j'ai gagné. Voilà. Donc, la semaine dernière aussi, il y avait la Belgique qui a joué. Je sais plus, il y a Belgique. Je savais que la Belgique allait gagner. J'ai mis 1000 euros, la cote était à 2 sur 1.
1000 euros? Tu as mis 1000 euros?
J'ai mis 1000 euros dessus. J'ai pris le double. Je savais qu'ils allaient gagner. Donc du coup, après, c'est vrai que j'ai mes petites, tensions qui font que j'arrive à me relativiser, me dire, bon, maintenant, c'est comme ça. Je veux dire, j'ai gagné 1000 euros, mais c'est pas pour autant que j'ai des rejouis derrière sur les matchs.
Budget pari du mois?
Mon budget pari au mois, je sais pas, c'est à peu près entre 300 et 400 euros.
Globalement, tu dirais que tu es positif ou négatif?
Je suis plus dans le positif, honnêtement, que dans le négatif pour moi, pour ma part à moi. Voilà. D'accord. Parce que j'arrive quand même à mettre des barrières et à savoir à peu près sur quel match je peux miser. Bon, après, ça reste du foot. Je veux dire, c'est pas comme dans certains où c'est qu'il peut y avoir, bien sûr, du bidouillage, hein. Voilà. Mais dans le foot, je suis le foot depuis que je suis tout petit. Je connais pas mal le foot, on va dire. Donc, quand je mise, c'est vrai que je suis sûr à 90%, quoi.
Mais là, Tony, tu nous racontes que tes belles histoires, là. Tu nous racontes pas tes... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le joueur, il oublie ses gros bides.
Alors, justement, Tony, reste avec nous. On est avec Julien, qui nous appelle de Sartrouville, qui est commercial. Julien, toi, tu as été addict pendant longtemps. Tu as perdu entre 15 et 20 000 euros. Salut. Salut,
oui, Julien. Bonjour à vous.
C'est énorme, ce montant.
Ouais, bah c'est énorme, mais c'est vrai que sur le moment, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte quand on prend du recul et quand on fait les comptes.
Ouais.
Et c'est là qu'on prend en général une bonne claque, hein, comme on dit. Donc, et c'est là qu'on ouvre les yeux sur le fait que bah, c'est une réelle addiction, que c'est un danger, et que là-dessus, pour moi, on n'est pas assez prévenu, parce que moi, je suis tombé dedans. J'ai commencé à parier en tabac, j'étais mineur, j'avais 16 ans.
Ah oui.
Et dès que j'ai été majeur, donc je me suis inscrit sur une plateforme de paris en ligne, donc avec les bonus à l'époque, 100 euros déposés, si votre pari est perdant, vous êtes remboursé. Et puis en fait, c'est un engrenage. On se met à parier sur du foot, du basket. Je me suis même retrouvé à parier sur du billard, alors que j'en ai jamais regardé de ma vie.
Ouais.
Donc c'est l'appât du gain. C'est on gagne. On veut toujours gagner plus, puis on perd encore plus, et on reparie pour refaire un peu ce qu'on a perdu, puis ça s'arrête pas.
Comment t'es arrivé à t'en sortir?
En partie grâce à ma copine, notamment,
ouais.
où c'était plus vivable de finir à découvert tous les mois à cause de ça. Et puis on fait les comptes, on ouvre les yeux, et quand on voit une somme comme ça, à 24 ans, on se dit, bon, il y a un petit souci quelque part, et on essaye de s'en sortir, mais c'est très très compliqué.
Ouais, attends Julien, la volonté ne suffit pas. Tu t'es fait aider, tu as été voir un spécialiste, un addictologue. Comment ça s'est passé?
Non, pas du tout. En fait, je me suis banni moi-même de la plateforme de Paris.
Ouais.
Donc du coup, je ne peux plus y avoir accès. J'ai fermé mon compte définitivement. Donc, je m'en suis sorti tout seul. Je vais pas vous mentir que la tentation est plutôt élevée là, surtout en période.
Ouais. T'entends les pubs tout le temps.
Alors déjà, les pubs à l'époque où j'ai commencé, il y en avait pas tellement.
Ouais.
Ensuite, les sites de paris en ligne ont commencé à arriver en tant que sponsor dans le monde du sport. Et puis après, de plus en plus de pubs. Et puis, au moment des grosses compétitions, on a toujours une petite envie. De passer au tabac, faire un petit ticket, mais...
Est-ce que tu vois autour les autres tomber un peu dedans?
Oui, dans mon entourage, notamment un ami de s'approche à moi aussi qui est tombé bien, bien dedans, et c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes.
Julien, j'ai une question bête, qui est celle qu'encore Laurent va dire, quelqu'un qui ne joue pas. Est-ce que ton niveau d'excitation dépend étroitement des sommes que tu joues? C'est-à-dire...
Quand on parie, oui, parce que, que c'est sûr que si c'est un pari où j'ai misé 5 euros et qu'il va être perdant, je le vivrai pas aussi mal que qu'un pari où je peux perdre 100, 200 euros, si ce n'est plus. Mais par contre, moi, étant un grand fan de foot, bien avant tout ça, j'ai pas besoin des paris sportifs pour être excité devant un match de foot.
Ouais.
Donc je suis un peu d'accord avec vous deux sur le coup.
Faut juste préciser quand même que les paris, pour les gens qui ne jouent pas, les paris, c'est incroyablement varié. C'est-à-dire quand on dit on parie sur un match de foot, mais on parie pas seulement sur le score final. C'est-à-dire que tu peux parier sur tout, c'est-à-dire la minute à laquelle il y aura le premier but, les joueurs qui vont marquer, combien il y aura à la mi-temps. Tu peux parier sur tout.
Le problème des applis en ligne, c'est que on peut parier par exemple hier France-Portugal, il y a eu 3 pénaltys. Si on est en ligne, on peut parier sur le moment, est-ce que le pénalty va être réussi ou non. On peut parier sur les buteurs, on peut parier sur le moment où le but va être marqué, est-ce qu'un remplaçant va marquer. Il y a une possibilité infinie de paris.
Du coup, quand t'entends Tony qui peut mettre jusqu'à 1000 euros sur une mise, est-ce que t'as envie de le mettre en garde?
Oui, il faut faire attention, c'est sûr. Et après, moi, surtout, ce qui m'a un peu choqué, c'est quand il dit « moi, je suis sûr à 90% ». Il faut pas oublier que le sport, il y a rien de sûr, il y a aucune valeur sûre. Quand quand on peut voir des exploits de petites équipes en foot, que ce soit en Coupe de France ou ce genre de choses, il n'y a pas de valeur sûre, c'est faux.
Ouais, mais tu vois, Julien, on va demander à Tony ce qu'il en pense, mais moi, la technique de Tony, ça m'irait assez bien, c'est-à-dire parce que en gros la Belgique elle était favorite.
Quand oui, il dit,
j'étais convaincu que la Belgique allait gagner, mais la Belgique était favorite. Donc moi je ferais partie, si je devais parier, je ferais partie de l'école de ceux qui prennent très peu de risques.
Donc tu prends que les petites cotes.
Ouais, que tu prends que les petites cotes, c'est ça.
Je suis d'accord avec toi, sauf que par exemple tu vas prendre un match, je sais pas, cette saison le PSG en championnat qui est ultra favori à chaque match. Tu peux mettre 1000 euros dessus. On s'est fait surprendre. Je dis on parce que je suis supporter parisien. On s'est fait surprendre à plusieurs reprises contre des petites équipes avec des cotes qui étaient exorbitantes.
Sauf que moi, Julien, si tu fais, si tu paries la victoire du PSG à chaque match toute la saison. Je pense qu'au bout de la saison, t'es gagnant.
Oui, et un détail près, c'est que ça ne te rapporte rien.
Donc, bah, ça ne te rapporte pas rien, justement. Non, si, tu fais comme
Denis,
Parce que
dans le cas de Tony, il met 1000 euros, il gagne 1000. Mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Parfois. Surtout pas avec le PSG.
Bah oui, surtout pas avec le PSG. Les cotes sont beaucoup plus faibles que ça.
Même si tu gagnes.
Si tu mises 10 euros et que t'en gagnes 11.
Alors attends, Tony, qui est toujours là, il va te gagner
10 euros pour en gagner 1.
Ouais, je suis là. Ouais, je vous écoute, je vous entends. Après, c'est vrai que, comme il dit le chef, là, il n'y a pas de problème. Sur le fait de dire, bon, faut faire attention à tout ça. Ça devient addict. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme dans une soirée. Si on abuse un peu trop sur la bouteille, on va se retrouver dans un état aussi pas normal. Exactement, pour les paris, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu la même chose. Il faut savoir être raisonnable et se dire, voilà, être sûr à 90%, voilà, comme le match de la Belgique qu'il y a eu, moi je mettais ma main à couper, il n'y avait pas de problème là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis 1000 euros, autrement je ne les aurais pas mis là-dessus. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas, je veux dire, c'est pas tous les 15 jours que je mets 1000 euros sur une équipe, pas du tout. Mais quand je les mets, voilà, le résultat il a tombé et c'est vrai que je ne suis pas déçu. Et à la fin du match, même pendant le match, qu'il y a eu, le plaisir a été comment vous dire ça, moi c'était une explosion, c'était un peu d'artifice.
Décuplé.
Et il y a du stress, quand tu mises une telle somme, j'imagine qu'il y a un gros stress pendant le match.
Il y a du stress, on est là devant la télé, on fronge les angles, on regarde, on saute en l'air, on fait des cris de
parce fou, que là en l'occurrence c'était la Belgique jouait contre qui.
J'ai plus souvenir là du match là,
ils ont écrasé le match, ils ont gagné largement ou pas?
Ah oui, ils ont bien dominé, ils ont dominé à 100%.
D'accord.
Bien sûr.
Donc t'as pas eu peur, quoi.
Bah merci Tony Hang d'être venu nous raconter. Il n'a pas eu peur. Il ne va plus sur les paris où il est sûr de gagner. Merci beaucoup à Tony et à Julien d'avoir été avec nous au 32-16. On est avec Franck qui nous appelle depuis Saint-Etienne. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Toi Franck, tu es homme de ménage, tu paries tous les jours, tu mets combien?
Tous les jours, oui. Tous les jours, voilà, je suis à plus de 100 euros, 100 euros, 200 euros.
Par jour?
Tous les jours. Ouais, par jour, ouais.
Mais comment tu fais? Tu dois gagner.
Il gagne, certainement.
Non, je gagne pas. Quand je gagne, c'est bien, mais je le rejoue tout, de toute façon. Et puis, non. J'ai mon salaire, boum, c'est parti, et voilà.
Donc tu te mets dans une situation compliquée, Franck?
Très, très compliquée.
Mais 100 euros par jour, il y a 30 jours, ça fait 3000 euros par mois. Comment, il faut gagner au moins 3000 euros par mois pour subvenir à ces...
Disons que si un jour je vais gagner 400 euros, je vais les rejouer. Donc il s'est compris dedans, quoi.
Ah oui. Mais ça te coûte. Ah oui, non, mais ça te coûte combien au mois, finalement, entre ce que tu gagnes et ce que tu mises?
Mon salaire.
C'est ça.
Ah oui.
Voilà.
Ouais, mais là, Franck, il faut que tu fasses quelque chose là, pour t'en sortir.
Oui.
Là.
Oui, je sais bien.
Et tu vis avec quoi, du coup, Franck? Parce que si ton salaire passe dans le jeu...
Eh ben, je fais ce que je peux. Je suis pas tout seul, je suis avec ma femme. Mais voilà, là, je suis... Moi, c'est plus le pari hippique.
Ouais.
Hippique tous les jours, course par course. C'est plus fort que moi. S'il me reste 30 euros... il faut que j'aille les jouer pour essayer au moins de faire 60 et ainsi de suite.
Mais Franck, ton problème à toi, c'est la passion des courses hippiques ou c'est la passion du jeu?
C'est les deux.
C'est pour ça que c'est difficile de s'arrêter.
Voilà. J'adore les chevaux. Je suis tombé dedans quand j'avais 14 ans. Et depuis, j'en ai 40. Et c'est horrible. Parce que le matin, je me lève après le boulot ou un truc comme ça. Je me dis, allez, il faut que j'aille faire 2-3 courses. Il faut que j'aille faire un billet, quoi.
Je suppose que ça a des répercussions sur ton entourage, sur les gens que t'aimes, les gens avec qui tu vis. Comment tu vis ça?
Surtout avec ma copine, oui, c'est compliqué.
Donc, Franck, tu t'es endetté du coup, Franck, ou pas?
Pardon?
Est-ce que tu t'es endetté?
Ah oui, 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 bien sûr. Oui, je me suis endetté, oui, je suis endetté à l'heure actuelle.
Bon, ouais. Il faut arrêter alors, hein. Il faut arrêter, Franck.
Ah, je sais bien, mais c'est plus fort que... C'est une addiction, hein, c'est pour ça que je dis...
C'est pour ça que t'as besoin d'aide, en fait, Franck, hein. Enfin, c'est,
oui,
c'est
oui,
pas...
ça, je m'en rends compte, mais... on dit on va se calmer, on pense qu'on se calme, et puis c'est la tentation, et puis voilà. Et puis moi, je dis, c'est surtout pour les jeunes, quoi.
Non mais Franck, si tu le fais, il faut arrêter, ça c'est clair. Ouais. Si tu ne le fais pas pour toi, tu peux au moins envisager de le faire pour les gens qui t'entourent.
Tout à fait.
Mais parce que j'imagine que ta femme, elle doit...
Ah ouais, elle pète des câbles. Ouais, elle pète les plombs, et puis c'est pour ça que je lui dis pas tout, quoi. Il y a des fois, ça m'est arrivé de gagner des bonnes sommes d'argent, enfin, pour moi, c'est des bonnes sommes d'argent, c'est-à-dire... Parce que quand j'entendais tout à l'heure, je sais plus qui disait qu'il jouait 1000 euros sur... moi, quand j'en joue 100, j'arrive à en gagner 400-500, je prends pas un gros risque, parce que c'est une cote qui a 4-5 contrats, on va dire, parce que c'est tout dans la cote, hein. Comme on disait tout à l'heure, hein, si on joue sur le PSG à 1,40€, ça m'a pas d'intérêt, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, quoi.
T'as des enfants, Franck, ou pas?
Ouais, j'en ai deux, mais bon, ils vivent pas avec moi. Mais je vous dis, il y a des fois, c'est l'addiction totale, quoi, mais c'est plus fort que moi, hein, c'est... Il me reste 30€ dans le portefeuille, et ben, je préfère aller faire 2-3 courses, essayer de doubler, tripler, quadrupler ma mise minimum, et je, évidemment, la plupart du temps, je les perds.
Ah mais là, Franck, c'est sûr que tu t'en sortiras pas tout seul. T'as besoin d'aide. De toute façon, l'addiction, on a besoin d'aide. Hein,
faut aller voir son généraliste.
Il y a une asso qui s'appelle SOS Joueur. C'est une asso qui aide exactement les gens comme Franck à s'en sortir, à gérer leur addiction. Je te donne le numéro, Franck, si t'as un truc pour noter. C'est 09 69 39 55 12. 09 69 39 55 12. SOS Joueur, c'est typiquement pour les gens comme toi. Faut pas croire qu'on peut s'en sortir tout seul, et faut pas hésiter vraiment à demander de l'aide. Le jeu, c'est une addiction comme les autres, dont on peut tomber. On a besoin qu'on puisse nous aider. Franck, tu nous tiendras au courant, hein, de si tu arrives à t'en sortir. Nous, on est là, tu peux nous appeler au 3216. On vous attend, vous venez nous expliquer vos expériences de jeu, comme Franck qui est tombé clairement
dedans.
Allez,
moi je mets un billet sur le fait que tu vas arrêter de jouer.
Il met sur toi, Franck, t'es son cheval.
T'es mon cheval.
Attention, il faut pas le décevoir, parce qu'il joue jamais, donc faut pas que tu le déçoives. À très bientôt, Franck, sur RMC. On vous attend au 3216, succès des sites de paris en ligne. Est-ce que ça vous excite, les paris? Est-ce que comme Franck, vous êtes tombé dans l'addiction? On vous attend sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Neumann le chiffre.
RMC, midi
15h. Neumann le chiffre,
le retour. On est ensemble jusqu'à 15h. Succès des sites de paris en ligne. Parier sur de l'argent, est-ce que ça rend les matchs plus excitants? Pour Neumann le chiffre, non, le sport me suffit. Parier, c'est le mettre le doigt dans l'engrenage. Pour Laurent Neumann, oui, une petite pincée de sel supplémentaire, ça fait toujours plaisir. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann le chiffre.
32-16.
Et on est avec Paul qui nous appelle de Lyon, qui est chef de projet thermique dans le bâtiment. Bonjour Paul.
Bonjour.
Toi, tu joues avec tes copains au Paris sportif. Est-ce que tu peux aujourd'hui regarder un match sans avoir parié?
Je peux regarder un match sans avoir parié, mais c'est un peu dur, j'avoue. Je parie notamment, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, je parie sur la NBA.
Là où il y a eu le plus de paris. Moi, ça m'a un peu surpris, plus qu'en Première Ligue, plus qu'en Ligue 1, c'était au premier trimestre. Alors, il n'y avait pas l'euro, hein, donc évidemment, peut-être ça va changer là, mais... Ouais.
Mais ouais, en fait, on est un groupe de parieurs. On regarde les stats toutes les nuits, parce que du coup, c'est la nuit, la NBA, forcément. Donc, on dort un peu moins. Et on regarde les stats sur tous les joueurs. On parie sur beaucoup d'autres choses que les matchs, d'ailleurs. On parie sur le nombre de points que vont marquer les joueurs, sur les scores au carton, sur tout un tas de choses. Et le fait qu'on joue en groupe, du coup, on arrive quand même à se maintenir au niveau des sommes et d'éviter les excès.
Et vous autoréguler.
Ouais, on s'autorégule, et quand il y a quelqu'un qui commence à parier un peu trop, on arrive à la...
D'accord.
Paul, tu as l'air d'avoir une voix très jeune, t'as quel âge?
J'ai 22 ans.
T'as 22 ans, et tu as estimé combien tu jouais sur tes deniers personnels chaque mois?
C'est entre 200 euros à peu près.
200 euros tous les mois, et tu es capable de dire si tu es positif ou négatif?
Ouais, je suis positif, oui, largement positif.
Est-ce que tu fais comme font certains joueurs? Moi, je faisais ça avant. Ce qui relève de mes gains, je le mets sur une cagnotte à part pour toujours savoir si je suis positif ou négatif. Ouais, est-ce que tu fais ça, toi?
J'ai un virement automatique, en fait, via l'application auquel je joue. Et dès que j'ai des gains qui dépassent les 200 euros, ça va directement sur mon compte en banque.
Non, mais donc du coup, tu mêles tes gains à ton compte en banque. Mais moi, je faisais pas ça. Moi, j'avais une cagnotte à part pour savoir toujours si mes gains ou mes pertes de jeu étaient équilibrées, positives ou négatives.
Moi, je mets sur mon compte, mais je tiens pas les comptes à part.
Mais le basket, c'est pas plus facile? Parce que honnêtement, les joueurs qui marquent beaucoup, on les connaît, on sait à peu près... qui sont, tu vois, il y a moins de surprises au basket quand même, non?
Le problème en fait du basket américain, c'est qu'il joue 82 matchs en 6 mois. Donc les gros joueurs, il y a beaucoup de matchs où ils ne jouent pas par rapport à la fatigue. Ah oui. Et si on a mis 100 euros sur un joueur et qu'en fait il est un peu fatigué et qu'il joue pas, on a perdu nos 100 euros avant que le match commence.
Est-ce que t'es très influencé par la pub? Est-ce que t'es arrivé au Paris par là ou pas?
Je suis pas du tout arrivé au Paris par la pub. Parce que c'est mes copains du basket qui faisaient ça et je suis arrivé plus avec le phénomène de groupe.
Activité sociale.
Et vous faites des classements entre vous et tout ça, j'imagine?
C'est ça, on a des classements entre nous, il y a des comptes même sur Twitter, il y a des communautés qui remettent les stats, il y a des analyses, c'est vraiment une communauté. Hein,
Mais toi, avant d'être joueur, avant d'être parieur, t'es un fan de basket au départ?
Ouais, je suis un joueur de basket, fan de basket. Mmh.
C'est ça.
Il y a une raison de t'intéresser à
la NBA. Ça laisse plus beaucoup de temps pour regarder les matchs.
On va rester entre jeunes puisqu'on va aller voir. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous. On va aller voir Draman qui a 22 ans également, qui est étudiant. Bonjour, Draman. Draman, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là.
Oui, toi, tu habites à Ivry-sur-Seine et tu te sens matraqué par la publicité.
C'est ça. Alors, parce que contrairement à ce que Laurent disait en début d'heure, le matraquage a lieu tout le temps et pas que pendant l'Euro. Par exemple, l'espoir de Ligue des Champions, de Ligue 1, la publicité est matraquée. Par exemple, sur la mi-temps, 15 minutes de mi-temps, vous pouvez regarder, il y a au moins 5-6 spots.
Est-ce que c'est ça qui t'incite à jouer? Tu es joueur toi-même?
Non, moi je joue pas. Au contraire, j'essaye de sensibiliser un peu les gens de mon entourage contre ça parce que quand le plaisir de parier dépasse le plaisir sportif, il y a un fort risque d'addiction.
Et tu vois le phénomène s'amplifier autour de toi?
Moi, je vois le phénomène s'amplifier autour de moi, déjà.
Tu vois tes copains?
Ouais, j'ai 22 ans aujourd'hui, depuis plusieurs années, donc depuis que j'ai 16 ans, je vois des gens autour de moi jouer, alors qu'ils étaient mineurs. Ces personnes-là n'affichaient que les gains, jamais les pertes, mais on sait qu'au bilan, ils sont dans le négatif.
Non, mais excuse-moi, j'ai posé une question totalement bête, mais pour pouvoir jouer, il faut quand même avoir des revenus. Où ils trouvent l'argent, tous ces mineurs, pour jouer?
Bah, des fois, c'est l'argent des parents. C'est l'argent des parents quand
l'argent de poche.
L'argent de poche. Il finit au bar tabac dans les paris. Et ensuite, une fois qu'ils ont 18 ans, c'est les paris en ligne. Et puis, très rapidement, ça s'endette. Et quand le pari sportif devient également aussi la seule solution pour se renflouer, c'est un engrenage sans fin.
Draman, quand tu essaies de dire à tes copains que le pari, ça peut être dangereux et tout, tu passes pour un rabat-joie, t'arrives à être entendu?
Non, parce que actuellement il y a quand même un effet anti-paris sportif qui naît, où certains jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, prennent quand même conscience qu'il y a un grand danger d'addiction.
D'accord, donc il y a quand même on t'entend dire que c'est dangereux. Merci à toi, Draman, d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chip. Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes prudent avec les paris en ligne. Vous êtes finalement 65% à répondre non. Parier, ça ne rend pas les matchs plus excitants.
Et eh ben voilà, finalement, tout le monde n'a pas envie de parier. On va aller à Jakarta, en Indonésie.
RMC.
Midi 15h, Neumann Le Chypre.
Mesdames, messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger.
Et on est avec Eric, qui vit à Jakarta depuis 5 ans. Bonjour Eric.
Bonjour Laure.
Salut Eric, toi tu as 59 ans, tu es consultant dans l'aéronautique. Tu es arrivé à Jakarta par le travail?
Un travail ici il y a 5 ans et puis finalement j'ai pas quitté l'Indonésie. Je suis sur Jakarta depuis 5 ans en travaillant pour un grand groupe constructeur européen.
Alors raconte-nous Jakarta, c'est comment?
Alors Jakarta actuellement, le Covid est en train de regrimper depuis une petite semaine, donc on est en train de refermer de nouveau les cinémas, tous les centres, les restaurants sont encore ouverts. Mais apparemment, après les fêtes, les gens sont partis dans les villages et quand ils sont revenus, donc Jakarta, il y a 10 millions intramuros hein, d'habitants et 25 millions avec les banlieues. Et là, c'est reparti à la hausse. Le Covid est reparti avec... alors le variant, je ne sais pas exactement quel variant, mais sinon, tout va bien. Bon, là, c'est nuit, hein, parce qu'il est bientôt 8h ici, à 20h. Hein.
Et ton quartier, ça ressemble à quoi? C'est très moderne, c'est plutôt ancien?
Alors, c'est moderne. Alors, je suis dans une deuxième étage face à la mer, donc j'ai à peu près une vue sur 80 degrés face à la mer. C'est une tour, c'est un complexe. Hein, complexe précis. Il y a soit vous habitez dans des tours, soit après c'est des petits niveaux. C'est à peu près Jakarta, c'est fait de tours et de maisons. Hein. Bon, c'est à peu près comme ça. Mais là, je suis vraiment face à la mer.
Il fait quel temps là en ce moment à Jakarta? C'est chaud, humide là, comme d'habitude?
Oui, comme alors, tous les jours.
Oh bah c'est, en gros, il y a deux saisons. Hein. Il y a deux saisons. Une saison des pluies qui va durer 3 mois à peu près, de décembre à mai, et puis après de mai à octobre, je dirais saison sèche. Mais il fait à peu près 28-30 degrés toute l'année, puisqu'on est quasiment sur l'équateur. Hein.
Et tu restes à Jakarta ou alors tu as quand même la possibilité, parce que depuis 5 ans, tu as dû l'avoir, d'aller voir toutes les autres magnifiques îles d'Indonésie?
Oui,
quelques îles. Aïe,
Eric, on est en train de te perdre. Vas-y.
Allô?
Non, on t'entend très 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 mal, Eric. On va tenter de te rappeler pour essayer d'améliorer la ligne depuis Jakarta, mais c'est loin, Jakarta.
Ah bah Jakarta, c'est l'archipel indonésien. Il y a Jakarta, Java, Bali,
Bornéo,
Sumatra, etc. Ouais.
Tu as été à Jakarta?
Oui.
C'est le Laurent Neumann de l'étranger. Tu es revenu, Eric?
Non, il est toujours pas revenu.
Eric, on essaye de le rappeler. Moi, je ne connais pas l'Indonésie.
Non, mais c'est pas vrai, je te dis que j'étais à Jakarta, c'est pas vrai. Non, il se trouve que j'étais dans une partie de l'archipel indonésien. J'étais à Bali.
À l'aéroport, il est basé.
Non, j'étais à Bali.
Non, mais c'est sans doute, objectivement, si tu prends Jakarta et tous les... C'est sans doute la faune, la flore la plus extraordinaire et la diversité la plus variée au monde. Tu peux pas rêver plus beau que l'Indonésie en matière de diversité des îles.
Ouais, sauf que Bali c'est le calme et la paix absolue, alors que Jakarta c'est les tensions, c'est un monde en tension permanente. Donc c'est pas forcément une vie simple.
On n'aura pas le temps de demander à Eric si j'aurais bien aimé à Jakarta. Ah, il est là, on a retrouvé Eric. Eric, est-ce que tu te sens safe à Jakarta?
Ah, tout à fait. Au niveau sécurité, la population, elle est hyper sympa et vraiment très safe. Hein. On peut sortir à n'importe quelle heure. Bon, évidemment, un peu partout dans le monde, on n'est pas obligé d'aller dans les quartiers un petit peu chauds dans le sud, mais en règle générale, vraiment, c'est safe. Hein. On n'a pas de problème d'insécurité, on se sent tout de suite à l'aise. Il n'y a pas besoin d'avoir des policiers dans la rue, des militaires, on en voit très peu, en fait. Et c'est vraiment safe, sans problème.
Bon, Eric, si on vient en Indonésie, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'a pas entendu ta réponse sur les autres îles, etc. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir? C'est quoi le plus beau?
Bah, du côté de Manado, vous avez l'île de Sulawesi où il y avait des très belles plages et faire de la plongée. Pour les amateurs de plongée, il y a de très beaux coins. Bon, Bali, tout le monde connaît évidemment. Ouais. Mais Bali, c'est pas l'Indonésie, hein. Bali, c'est Bali, hein. c'est une culture un petit peu différente. Mais il y a 16 000 îles, hein, en Indonésie. Donc, il y a de quoi faire.
Il y a 16 000 îles en Indonésie.
Ouais, c'est fou. Ouais.
Oui. Ah bah, c'est la plus grande archipel du monde, hein. C'est de 260 millions d'habitants, 16 000 îles, donc des coins paradisiaques, complètement sauvages. Il y a même des coins où on n'y a pas encore été. La Papouasie, c'est très très joli, le nord là, c'est magnifique. Non, il y a énormément de coins qui sont pas vraiment touristiques, hein, mais vous louez un bateau pour peu d'argent et vous pouvez aller faire une journée, un week-end, une croisière très simple. Non, c'est super joli, hein, c'est magnifique.
Bon, je suis sûr que la France te manque un petit peu. Tu veux faire un petit message à ta famille, tes amis?
Oui, bien sûr. Bah, je fais un petit coucou à mes parents qui sont à Cavalaire, toute ma famille du côté de
Tours. Ah bah nous, tu sais qu'avec l'or, nous on connaît Cavalaire comme notre poche, nous.
Ah, bah, mes parents sont en galère, mon frère. Bisous à mon frère Gilou, mon cousin qui est en vacances aussi. Je fais un bisou à toute la famille. Et puis,
nous aussi.
Bien sûr, la culture. Et puis, le fromage, le vin rouge, le saucisson, voilà, c'est tout ce qui manque, hein, évidemment, comme tous les Français. Hein.
Bah, écoute, on les embrasse à Cavalère et on leur dit très, 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 très,
Eric, c'est la fin de Man Le Chip pour aujourd'hui.
Salut, Eric.
Demain, pour une émission spéciale Artisans de France, on sera avec les vainqueurs.
J'attends ça avec impatience.
On va carreler, on va être plâtrier, claquiste, faire des coiffures, ça va être génial.